les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans Les Ondes Buissonnières, votre émission de pépites sonores sélectionnées par la rédaction. L'émission que vous allez écouter fait le point sur la situation de Vincenzo Vecchi, militant anticapitaliste condamné à 12 ans et demi de prison pour sa participation au contre-sommet du G8 à Gênes en 2001. Elle a été réalisée par le comité de soutien à Vincenzo Vecchi.
Bonjour, ceci est une émission du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Le 12 juillet 2022, Éric Vuillard, prix Goncourt et membre du comité de soutien, publiait dans l'Obs une tribune qui revenait sur l'affaire de Vincenzo Vecchi et, ligne après ligne, pointait l'importance pour l'Europe de proposer à la France la libération de Vincenzo. Le 14 juillet, jour de fête nationale, anniversaire de la prise de la Bastille, symbole de liberté, l'avis officiel de la Cour européenne est tombé. Renvoyez Vincenzo en Italie. Suite à cet avis qui a valeur de jurisprudence, la Cour de cassation décidera du sort de Vincenzo Vecchi le 11 octobre à Paris. Cette jurisprudence est une ignominie. Rappelons que Vincenzo est condamné à 12 ans et demi de prison pour sa simple participation au contre-sommet du G8 à Gênes en 2001, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Pourtant, il n'y a aucune preuve contre lui et il n'est accusé d'aucune violence physique contre quiconque. Mais l'utilisation du chef d'inculpation de dévastation et pillage, avatar du code pénal mussolinien laissé aux oubliettes pendant 60 ans, a permis de le condamner sans preuve comme 9 autres manifestants. Dans cette nouvelle émission, nous avons choisi de mêler à la parole que nous envoyait Éric Vuillard dans sa tribune du 12 juillet les réactions à chaud de membres du comité de solidarité de Rochefort suite à la publication de l'avis de la CJUE. Vous entendrez donc Jean-Baptiste, Pascal, ancienne avocate et magistrate, Jules, Laurence, Olivier, Jean-Luc.
Moi, je sais que depuis le début, je me revois dire aux gens il a pris 12 ans pour être présent dans une manifestation. Manifestation qui a été effectivement dure, qui a été violente à la mesure de la violence des forces de l'ordre, etc. Et il a pris 12 ans pour être présent dans cette manifestation sans aucune preuve d'activité, lui personnellement, sauf la photo où on le voit prendre des planches pour construire une barricade. C'est la seule chose, c'est la seule preuve visuelle qu'on a de le voir faire quelque chose de délictueux. Et j'utilise le terme délictueux parce qu'il est clair qu'en plus, c'est un délit, alors qu'en Italie, c'est un crime. Ils en ont fait un crime. La fameuse loi dévastation et pillage, elle fait devenir un crime une présence dans une manifestation, une présence dans un lieu où il peut y avoir du désordre. C'est ça qui s'est passé pour Vincent, en fait.
Ce jeudi, la Cour de justice européenne va rendre son avis dans l'affaire Vincenzo Vecchi, en répondant à plusieurs questions de droit en apparence purement techniques. Au fond, il s'agit de savoir si la France acceptera de livrer Vincenzo Vecchi à l'Italie pour avoir participé aux manifestations contre le G8 à Gênes en 2001 et, pour cela, la Cour doit évaluer si le droit français est compatible avec la loi dévastation et pillage, qui est une subsistance mussolinienne dans le droit italien.
Ben, le mandat d'arrêt européen, ça a été créé comme fondement, comme une première pierre pour créer un espace juridique européen. Pour faire ça, ils ont choisi 32 cas consensuels, ça veut dire que tous les pays de l'Union européenne étaient d'accord pour les accepter. Et après, ils ont prévu l'exception. Ça veut dire l'exception, ça veut dire qu'à un moment donné, pour respecter les droits, l'histoire de chaque pays, c'était le fait de ne pas accepter n'importe quelle loi d'origine, liberticide, fasciste, franquiste, etc. Et donc, nous, on s'est appuyé sur ça pour Vincenzo. Ça veut dire qu'on s'est appuyé sur le fait qu'il n'y avait pas d'équivalence, disons, entre une loi d'origine mussolinienne et la loi et le droit français. Ça veut dire qu'une loi mussolinienne, selon nous, n'avait pas le droit de rentrer dans l'espace juridique européen. Or, la Cour de justice européenne, le 14 juillet, a décidé autrement. A décidé effectivement qu'elle privilégie la fonctionnalité. Ça veut dire le rapport de confiance mutuelle entre les différents États. Et en réalité, le rôle de juge n'existe plus et le rôle de la défense n'existe plus. Ça veut dire que le 14 juillet 2022, pendant qu'on fêtait la Révolution française, la prise de la Bastille, etc., une poignée de technocrates juridiques européens a décidé que Mussolini, Franco, Orban, toutes les lois liberticides qu'elles ont été promulguées en Europe rentraient dans l'espace juridique européen.
Voici un échantillon de la jurisprudence italienne récente concernant l'application de la loi dévastation et pillage qui incrimine Vincenzo Vecchi. Je cite « Il n'est pas nécessaire que l'auteur accomplisse matériellement un acte d'endommagement à condition qu'il participe de façon consciente aux troubles perpétrés. Si on refuse d'être intimidé par la prose neutre du droit, une telle proposition défie l'entendement. Il n'est pas nécessaire que l'auteur accomplisse matériellement un acte d'endommagement à condition qu'il participe de façon consciente aux troubles perpétrés. On se croirait dans le procès de Kafka. Je traduis, un manifestant peut n'avoir accompli aucun délit et être cependant coupable. Pour cela, il suffit qu'il ait été présent, je traduis encore, un manifestant est toujours censé être conscient de tout ce qui se passe autour de lui. On peut ainsi lui imputer n'importe quel délit ayant lieu pendant la manifestation. C'est ce qu'on appelle une fiction.
La loi dévastation et pillage qu'ils ont ressorti, que l'État italien, que la justice italienne a ressorti à ce moment-là, c'est une loi qui date effectivement de l'ère fasciste. Et c'est une loi qui est terrible parce qu'elle donne un minimum de 8 ans et jusqu'à 15 ans de prison. Pour nous, en France, ce sont des quantités de prisons qui sont absolument hallucinantes, qui correspondent forcément à un crime, alors que ce ne sont pas des crimes. Ce sont des délits. Non seulement on ne le voit pas en commettre, sauf celui des planches de la barricade, mais en plus, les autres délits qui auraient pu lui être collés, qui lui ont été collés de manière abusive parce qu'il n'y avait pas de preuves, ces autres délits, ce sont des délits, ce ne sont pas des crimes. Il faut avoir bien en tête que ce sont en plus des délits qui touchent des objets, qui touchent les planches d'un chantier. Il n'y a pas de crime de sang, il n'y a même pas de crime d'avoir brutalisé quelqu'un. Donc il y a une disproportion totale de la peine par rapport à ce qui pourrait se passer en France. Et le vrai problème, il est là. Le comité de soutien et les avocats se sont battus, sont montés au créneau pour démontrer cette injustice. Là, ce qui est complètement, ce qui nous outre aujourd'hui, c'est que la Cour de justice européenne balaye tout ce travail qui a été fait par le comité de soutien, mais beaucoup par les avocats et par les cours d'arrêt de Rennes puis d'Angers et la Cour de cassation, parce qu'il faut rappeler qu'avant que la Cour de cassation se dise « Oh ben finalement, on va quand même demander l'avis de la Cour de justice européenne », avant ça, elle avait reconnu le bien fondé du jugement d'Angers, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est balayé complètement par la Cour de justice européenne dans un souci de fonctionnalité. C'est ça qui les fait bouger, qui les amène, je dirais, à avoir ce conseil. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est que pour l'instant qu'un conseil.
La loi dévastation et pillage, c'est une loi qui a été conçue pendant le fascisme par le juriste Rocco, qui était le juriste du fascisme, pour empêcher toute manifestation et toute contestation vis-à-vis du régime fasciste. Ça veut dire que la loi dévastation et pillage, en réalité, dévastation et pillage, c'est le titre, mais en réalité, c'est dévastation ou pillage. Ça veut dire qu'effectivement, à ce moment-là, en Italie, il y avait quand même des révoltes, il y avait quand même une insoumission vis-à-vis du fascisme, et donc il fallait effectivement que le pouvoir fasciste tape fort, fasse peur, pour empêcher toute manifestation vis-à-vis du régime. L'Italie post-fasciste a décidé de garder cette loi. On ne sait jamais. On les a mis dans un tiroir. Pendant des années, elle n'a pas été appliquée. Elle a été appliquée, par exemple, pour un débordement de supporters après un match de foot. D'un point de vue politique, en réalité, elle n'a jamais été appliquée. Et d'un point de vue de temporalité, la première fois a été appliquée pour Gênes. Je dis d'un point de vue de temporalité parce qu'en réalité, elle a été appliquée après aussi pour une manifestation antifasciste à Milan. Ça veut dire que la loi dévastation et pillage, en réalité, c'est vraiment la loi, c'est la bombe atomique, disons, contre les manifestations. Elle est là justement pour faire peur, elle est là pour empêcher, elle est là pour punir surtout. Parce que l'édit de Gênes, ils ont essayé par d'autres moyens de les punir. L'édit qui ils ont été choisis par l'exemple, si tu veux. Ils ont essayé différentes façons de les punir. Ils n'ont pas trouvé. Et à ce moment-là, ils ont ressorti la loi dévastation et saccage qui punit la simple présence dans une manifestation dans laquelle il y a débordement par une peine de 8 à 15 ans de prison.
J'aimerais rapidement rappeler le contexte de Gênes de Milan, des milliers de manifestants venus dire « un autre monde est possible ». Ce monde qui aujourd'hui nous conduit droit dans le mur, il y a plus de 20 ans, ces gens sont venus crier leurs arguments, leur volonté de changer ce monde qui était à la dérive et aujourd'hui ils se retrouvent derrière les barreaux et ils ont écopé de lourdes peines pour avoir manifesté pendant ces jours-là. Où un homme est mort, un manifestant est mort, il a été tué par la police, police qui n'a jamais été condamnée.
Jeudi, la Cour de justice de l'Union européenne va donc rendre un avis sur une fiction italienne. Cette fiction a été inventée sous Mussolini, puisque la loi sur laquelle s'appuie l'inculpation de Vincenzo Vecchi est une loi destinée à réprimer toute manifestation et que cette loi est une loi emblématique de la période fasciste. Pourtant, dans son mémoire adressé à la Cour de justice, le gouvernement italien interprète comme négligeable la différence entre les droits français et cette loi italienne d'origine fasciste. Et, ce qui est encore plus surprenant, le gouvernement français lui emboîte le pas. Il ne cherche pas à protéger l'intégrité du droit français, il se soucie seulement de la coopération entre États. Pour y parvenir, le gouvernement français effectue un rapprochement alarmant entre la loi dévastation et pillage du droit italien et l'infraction pour vol avec dégradation et en réunion du droit français, prétendant qu'il n'existe pas de véritable différence entre un délit et un acte identifié par la justice italienne comme criminel, comme si on pouvait mettre sur un même plan ce qui est un délit et ce qui est un crime, comme si la culpabilité avait une intensité comparable, comme si l'intentionnalité était un détail, comme si les peines étaient les mêmes.
La décision cadre, elle dit, moi je crée un mandat d'arrêt européen, un instrument juridique, mais dans un espace de liberté et de sécurité du citoyen européen. Bah, où est la liberté quand on peut dire que finalement une loi fasciste, qui a été créée par un État autoritaire et fasciste, peut rentrer dans le droit européen sous le prétexte que finalement tout est transposable, tout est un peu équivalent, tout est un petit peu comparable, quels que soient les éléments constitutifs de l'infraction. Justement, non. Là, il y avait, dans l'élément matériel de l'infraction, il manquait 2 faits sur 7. Et donc, elle ne pouvait pas déclarer que le crime dévastation et pillage est assimilable au délit français de vol avec dégradation, qui chez nous n'est qu'un délit. Un crime n'est pas assimilable à un délit. Il y a trois catégories d'infractions, les contraventions, les délits, les crimes. Chacun a des peines bien particulières et tout le monde sait que les crimes sont punis par des peines extrêmement lourdes de réclusion ou d'emprisonnement, qui n'ont rien de comparable dans la durée et leur nature avec un simple délit de vol avec dégradation ou avec de simples dégradations. Voilà, c'est pas comparable. De dire que c'est comparable, c'est antidroit et ça ne respecte ni les principes de liberté ni de sécurité juridique qui sont dus aux citoyens européens. Donc on peut dire qu'elle n'a pas respecté ses propres textes et ses propres principes qu'elle a trahis.
Le seul objectif poursuivi par le gouvernement français est la coopération européenne, une coopération à laquelle il faudrait sacrifier une partie des libertés publiques et des droits fondamentaux. C'est l'unique idéal du gouvernement, la coopération européenne. Le gouvernement propose même de réduire l'exception de double incrimination, qui permettait jusqu'à présent de s'assurer, à l'occasion d'un mandat d'arrêt européen, que le droit du pays d'émission et le droit du pays d'exécution sont bien compatibles, que le droit étranger au nom duquel on réclame de livrer quelqu'un soit bien conforme au droit français, c'est-à-dire, en dernière analyse, respectueux des libertés publiques. Le gouvernement français estime que cela ralentit l'exécution des mandats d'arrêt, que cette possibilité pour les juges de vérifier la conformité, de s'assurer que les incriminations de droit étranger au nom desquelles on réclame quelqu'un pourraient être des incriminations en droit français, est un obstacle à la coopération européenne.
Finalement, on a créé cet outil juridique pour qu'on puisse s'échanger des gens qui se réfugieraient dans un pays, mais qui seraient du grand banditisme, qui seraient des terroristes, ou des assassins, ou des trafiquants d'êtres humains, ou des trafiquants de stupéfiants. Eh bien, dès qu'il y a ce genre d'infraction, là, on ne se pose pas de la question de la double incrimination. Il n'y a pas d'argument juridique sur le fait qu'il y ait une infraction comparable ou pas dans le droit du pays d'exécution. Donc, on se retrouve déjà dans un cas très très exceptionnel, tout à fait marginal. Donc, il n'y avait aucun risque mettant en danger l'efficacité de l'outil juridique et le mandat d'arrêt européen pour la Cour de justice européenne de dire que finalement, sur le fait que le crime n'était pas assimilable à ce délit, à notre délit de vol avec dégradation, qu'en plus, dans des dévastations et pillages, il y a quand même cet élément tout à fait particulier d'atteinte à la sécurité de l'État, qu'il n'y a pas du tout dans le vol avec dégradation en droit français. Et en plus, il manquait donc de l'avis de tout le monde en France et des juridictions françaises, deux éléments sur sept pour considérer que c'était transposable. Ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Et on ne voit pas quel risque elle prenait pour l'efficacité du mandat d'arrêt européen. Ça ne remettait rien en cause.
Le gouvernement français voudrait réduire le rôle du juge. Il souhaite que le mandat d'arrêt européen soit désormais automatique, qu'on puisse livrer à un pays européen, sans aucun contrôle, les individus qu'il réclame.
Ce qui accroît le trouble, en quelque sorte, hein, c'est que les juges sont dessaisis de l'intégralité, finalement, des transferts d'individus entre pays. Hein, puisque le dernier cas qui subsistait est en train de sauter avec la jurisprudence de la CJUE. Le juge, dans ce type de situation, on n'en a plus besoin, quoi.
Il y avait quand même en réserve des cas d'exception qu'on pouvait examiner. Et donc, sur des délits mineurs, il pouvait y avoir des positions qui faisaient qu'on pouvait être amené à refuser le mandat d'arrêt européen. Aujourd'hui, ces exceptions-là sont évacuées de par cet avis rendu par la Cour européenne de justice ce 14 juillet, en disant que, en fait, les équivalences de loi ne doivent pas être simplement totales, mais partiellement en correspondance. Et dans le partiellement, ça laisse ouvert la porte à toutes les interprétations et toute la facilitation de la coopération des justices entre elles. Donc il n'y a plus moyen de pouvoir se défendre, et de justice, il n'y en a point, puisque c'est juste simplement une procédure administrative qui est en faveur des États répressifs, coercitifs, et qui ont des lois liberticides.
En un temps où l'extrême droite se trouve un peu partout aux portes du pouvoir, une telle légèreté est très inquiétante. Que veulent nos gouvernants? Pourquoi se montrer à ce point partisan d'une justice automatique, sans contrôle, comme si l'Europe était un espace où règne pour toujours une justice si parfaite que tout contrôle y serait devenu superflu? Mais le gouvernement n'a pas encore changé les règles, et pour le moment, les juges peuvent encore contrôler. Or, dans son argumentaire, le gouvernement fait comme si les États européens avaient déjà dessaisi les juges de leur contrôle. Il fait comme si sa proposition devait être appliquée aussitôt, dans une affaire en cours, que c'était là une simple question d'interprétation. Et à propos de la proportionnalité de la peine, le gouvernement français fait, lui aussi, comme si un délit et un crime, c'était au fond la même chose, comme si être condamné à un an de prison avec sursis pour avoir pris sur un chantier des madriers et les avoir déposés au milieu de la rue lors d'une manifestation, et 10 ans de prison ferme pour une nuée d'autres délits, c'était la même chose.
On était au Luxembourg. Notre avocat, effectivement, il a misé, disons, sur le fait de dire les biens protégés par dévastation et pillage, c'est la paix publique. Donc, du moment que le juge décide qu'il y a une atteinte à la paix publique, on est dans le cas de dévastation et pillage. À laquelle le procureur a simplement répondu « Oh, c'est quoi cette histoire ? Une voiture brûlée, c'est une voiture brûlée. » Eh bien, dans la loi dévastation et pillage, c'est pas exactement ça. Ça veut dire que, par exemple, un des 7 épisodes dans lesquels Vincenzo est impliqué, c'est le fait d'avoir brûlé une voiture. Mais quand on voit la photo de cette voiture qui brûle, c'est quand même aberrant parce que c'est un miracle à l'italien, disons, parce que la cour de Gênes dit, vous voyez, Vincenzo il est là, avec des centaines d'autres personnes, qui regardent le spectacle d'une voiture qui brûle. C'est bien spécifié, le spectacle d'une voiture qui brûle. Or, sa présence n'est pas simplement la présence d'un spectateur qui est là pour regarder le spectacle, mais bien évidemment de quelqu'un qui a participé au fait d'incendier cette voiture. Le miracle, c'est le fait qu'il est condamné pour avoir brûlé une bagnole sans jamais avoir touché la voiture. C'est ça le miracle, disons, de dévastation et pillage. L'autre épisode dans lequel il est impliqué, c'est le fait, par exemple, qu'à un moment donné, une supérette a été incendiée. On le voit avec une canette à la main et la cour dit ben, il est avec une canette à la main que, bien évidemment, il a récupéré à l'intérieur de la supérette après l'avoir incendiée. Là aussi, miracle italien, à aucun moment on le voit à l'intérieur de la supérette, à aucun moment on le voit prend quelque chose dans la supérette, à aucun moment on le voit incendier la supérette, mais il est condamné pour avoir dérobé et effectivement incendié la supérette simplement parce qu'il était dans le parage.
Il y a des éléments extrêmement troublants dans l'affaire Vincenzo Vecchi, c'est que dans un premier temps, il est condamné sur un principe complètement antinomique avec le droit français, c'est-à-dire qu'il est condamné pour une présomption de culpabilité. En France, on travaille sur la présomption d'innocence, on doit prouver que quelqu'un a fait quelque chose. Or, dans cette affaire, il suffit de voir des photos de manifestants pour dire comme ils n'ont rien fait, ils ont simplement regardé, ils sont coupables au regard d'une loi qui date de l'époque fasciste. Donc ça, en termes de justice, c'est complètement inadmissible.
De l'avis juridique du gouvernement, le contrôle de proportionnalité ne peut être réalisé par le pays exécuteur. Il relève du pays émetteur et, en conséquence, la disproportion éventuelle de la peine ne serait pas un motif de non-exécution du mandat d'arrêt. Il est étrange de voir un gouvernement plaider pour que ces tribunaux se dessaisissent volontairement d'une prérogative essentielle. En principe, les gouvernements sont jaloux de leurs prérogatives. Mais ici, qu'à cela ne tienne, la proportionnalité de la peine, c'est un détail. 1 an de prison avec sursis ou 10 ans de prison ferme pour des délits mineurs datant d'une 20aine d'années, c'est sans importance. Et cela ne regarde pas le gouvernement français.
Il faut reconnaître que dans cette histoire-là, on est basé sur une confiance mutuelle entre les États, mais que de confiance mutuelle dans le cas précis de Vincenzo Vecchi, il n'y en a point, puisque le dossier a été truffé d'erreurs, qu'ils ont émis des faux mandats d'arrêt européens à son encontre, etc.
On ne connaît pas dans notre droit pénal le fait d'être déclaré coupable pour des faits que vous n'avez pas commis, tout simplement. Vous ne pouvez pas être que spectateur. Or là, ce qui est reproché par les Italiens dans le cadre du crime de dévastation et pillage à Vincenzo Vecchi, c'est d'être spectateur, d'avoir été manifestant et d'avoir assisté à des dégradations. Donc à partir du moment où on dit dévastation et pillage finalement devient bancal parce qu'il manque deux faits qui n'ont pas pu être commis sur sept, la Cour de cassation posait une question extrêmement logique qui était de dire bah alors, si c'est que 5 sur 7, c'est plus la peine de 10 ans, elle est plus proportionnelle au fait, à l'infraction, parce que du coup, elle est trop forte par rapport à l'infraction. Eh bien, même ça, ils n'ont pas été suivis, ce raisonnement. Ils ont dit, oh, mais c'est pas à la France, finalement, de se poser la question de la proportionnalité. Comment ça, c'est pas au pays d'exécution de se prononcer sur la proportionnalité? Alors, qui doit se poser la question? Là, ils répondent, ben, c'est le pays d'émission. On tourne en rond, parce qu'il y a un principe de proportionnalité de la peine par rapport aux faits qui est posé comme principe directeur, comme principe essentiel dans l'espace de liberté de l'Europe. Et on, quand finalement le problème se pose, on se dit bah, « vous n'avez pas à vous y intéresser ». C'est vraiment du coup non proportionnel, mais on n'a pas notre mot à dire. Donc c'est vraiment effectivement tout à fait scandaleux, tout à fait révoltant. La Cour de justice européenne doit respecter la charte des droits fondamentaux et notamment l'article 49 du droit de la proportionnalité de la peine. Donc au contraire, ils ont enfreint les principes directeurs. C'est une décision qui n'est pas légale, mais que malheureusement on ne peut pas contester puisqu'elle est rendue. Finalement, ils voudraient confisquer aux juges français la possibilité même de ne pas être d'accord avec eux sur ce raisonnement qui est bancal et qui est scandaleux et qui réprime toute liberté. Alors que la liberté, c'est un des principes qui est prévu dans la charte des droits fondamentaux de l'Europe.
La Commission européenne est, quant à elle, plus prudente. Elle note qu'il existe, je cite, « un dilemme ». Si l'on étend le motif de l'exécution du mandat à des faits qui ne sont pas des infractions en droit français, comme de boire une canette de soda à 15 mètres d'une épicerie saccagée, et, je ne blague pas, ce sont des faits incriminés, alors la double incrimination est imparfaite, elle n'est que partiellement satisfaite. En effet, avoir dérobé des madriers pour les mettre au milieu de la rue constitue une infraction mineure en droit français. Mais boire une canette de soda à 15 mètres d'une épicerie saccagée n'en est pas une.
La double incrimination, on le répète, c'est quoi? C'est le fait qu'il faut, à peu de choses près, que les incriminations dans le pays d'origine ou dans le pays émetteur soit voisine ou très proche de celle existant dans le pays exécuteur. Voilà. Mais ça, c'était un garde-fou absolument phénoménal. Hein. C'était un garde-fou phénoménal, pourquoi? Parce que ça obligeait, indépendamment, je dirais, des cas sur lesquels ils avaient statué, les 32 catégories de cas, ça obligeait en quelque sorte les États et les juridictions pénales de s'interroger sur, finalement, ce qui est fait, ce qui est reproché à l'individu ou aux individus, etc. etc. Bon. Arrive la décision de la Cour de justice de l'UE. Hein. Cette décision de la Cour de justice de l'UE va dire quoi? Elle va dire, finalement, la double incrimination, on s'en fout. Hein, c'est-à-dire, globalement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, on n'a pas besoin pour renvoyer quelqu'un que, qu'il existe des motifs proches. Et ils vont plus loin. Et ils vont plus loin, c'est ça qui est absolument terrifiant, c'est qu'ils vont plus loin puisqu'ils vont dire sur la problématique, du niveau de la peine, hein, de la proportionnalité de la peine, comme on dit. Ils disent, mais la question ne se pose pas. elle n'a pas à se poser. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que tous les pays qui font partie de l'UE doivent appliquer les droits fondamentaux européens. Comme aucun pays ne va vérifier si l'autre pays les applique ou pas, comme c'est quelque chose de volontaire à travers en particulier la signature du traité de Lisbonne, hein, comme c'est quelque chose de volontaire, nécessairement, ils l'appliquent tous. Et donc, puisqu'ils l'appliquent tous, le problème de la proportionnalité de la peine ne se pose pas, puisque la peine qui est donnée par le pays initial, en quelque sorte, cette peine est nécessairement juste.
Dans ce dossier, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que par deux fois, un parquet général qui était confronté à un dossier qui met en œuvre une loi fasciste dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen où n'importe quel magistrat, n'importe quelle personne commun des mortels qui regarde le dossier Vincenzo Vecchi a le sourcil qui se relève en disant « Comment 12 ans et demi pour avoir fait des dégradations, pour avoir participé à une manifestation, peut-être pour avoir fait des actes un peu émeutiers, mais qui n'a blessé, qui n'a agressé personne une seule journée il y a 21 ans, 12 ans et demi d'emprisonnement, poursuivi 21 ans plus tard. » On a quand même le sens de la mesure, de la proportion quand on est magistrat.
Quant au procureur de la Cour de justice de l'Union européenne, Athanasios Rantos, il reprend trait pour trait les arguments de l'Italie. Il suit en cela ses opinions politiques et continue sa carrière de magistrat ultra-conservateur sans la moindre réflexion personnelle.
Quand la Cour d'appel de Rennes remet Vincenzo Vecchi en liberté et puis estime qu'il y a une nullité dans le dossier et qu'il a déjà, cet homme a déjà payé d'un an et trois mois de prison pour les faits qu'il a fait, dégradation, vol, etc. Il a payé, hein, il a payé sa dette à la limite hein, pour tout ça, sachant qu'en plus il a dû quitter son pays, s'exiler, être en quelque sorte un vrai bannissement, qu'il a dû se réadapter à une autre vie, qu'il n'a pas vu grandir son enfant, qui est resté en Italie, etc. Qu'est-ce qu'un magistrat normal fait, même au parquet ? Eh bien, il ne fait pas de pourvoi en cassation. Il se dit, ben voilà, justice est rendue, c'est bon. Eh bien non, là, il y a eu un pourvoi en cassation. Ensuite, quand il y a eu l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, qui faisait vraiment quand même une bonne mesure, c'est-à-dire qu'on disait, on ne prend pas dévastation et pillage 10 ans parce qu'il nous manque de faits sur 7. Et puis, sur les 2 ans et demi qui restent pour les autres petits délits à côté, il a déjà fait 1 an, 3/4, il reste 1 an et 2 mois. Bon, voilà, là, il les fera, on les aménagera, il en fera avec un bracelet électronique, un contrôle judiciaire, que sais-je. En tout cas, voilà, il y avait une bonne mesure. On retombait sur quelque chose de juste. Eh bien, que se passe-t-il ? Nouveau pourvoi en cassation. Pourquoi ? Mais parce qu'on est aux ordres, parce que c'est politique et que du coup, on obéit à des instructions, des ordres. On n'obéit plus à sa conscience, à son serment d'indépendance. On obéit à des ordres. C'est un grave problème pour notre magistrature. Il a déjà été pointé au niveau européen et on a déjà été pointé du doigt à la France parce qu'on estime que notre parquet n'est pas indépendant. Mais il est temps de réformer tout ça. On doit, quand on est un magistrat du parquet, pouvoir dire, là, voilà, là, les choses peuvent s'arrêter là, parce qu'on estime qu'effectivement, la bonne mesure, c'est qu'elle s'arrête là, et c'est ce qui aurait dû se passer.
L'enjeu derrière tout ça, c'est pas simplement la liberté de manifester, c'est simplement la liberté d'expression, d'une parole politique. Le contre-sommet du G8, qui est une expression politique, c'est en ce sens-là que ça a été visé. Et donc, c'est au travers de ça que on brise un mouvement de contestation, et c'est avec ça qu'on a peur d'aller manifester. Et donc, au-delà de ça, ça veut dire que toute forme d'expression, en fait, peut subir le coup d'une censure. Et le pire, le plus insidieux, c'est de faire que ça soit une auto-censure, parce qu'on a la peur de pouvoir s'exprimer. Donc, derrière tout ça, c'est une stratégie globale, parce qu'il n'y a pas de hasard dans cette histoire-là, pour pouvoir éteindre toute forme de contestation. Et donc de faire en sorte que, qu'on ferme les yeux, qu'on n'ouvre plus sa gueule et qu'on circule parce qu'il n'y a rien à voir.
Dans cette affaire, après deux décisions de cour d'appel refusant de livrer Vincenzo Vecchi à l'Italie, après deux pourvois des procureurs, la Cour de cassation, prudente, a préféré demander l'avis de la Cour de justice. Espérons que cela ne soit pas dans le but de se défausser. Derrière les arguments juridiques, l'enjeu est en réalité de taille. Veut-on réduire le contrôle des juges sur les mandats d'arrêt européens ? Veut-on livrer les individus comme des marchandises sans se préoccuper du respect des principes fondamentaux ? Enfin, veut-on permettre l'application d'une loi fasciste ? Veut-on que le droit de manifester, qui est en dernière analyse l'enjeu de cette affaire, soit encadré par une loi datant de Mussolini, autorisant à de très lourdes condamnations sans preuve ? Bien sûr, chacun se dit qu'après tout, l'Italie et la France, ce sont des pays raisonnables. Ce ne sont pas des régimes autoritaires. Pourtant, dans tous les droits démocratiques se glissent chaque jour davantage des atteintes aux libertés. Les démocraties européennes ne sont certes pas des régimes autoritaires, mais elles deviennent lentement des régimes troubles, hypocrites, sans scrupules. Dirigés par des gens qui, pour la plupart, ne croient en rien, les libertés publiques, les principes fondamentaux y reculent sans cesse. Mais ils ne reculent pas seulement sous les atteintes de l'extrême droite. Ils ne reculent pas à cause d'un coup de force. Ils reculent tranquillement, jour après jour, au nom de la sécurité et de l'efficacité.
Cet outil, le mandat d'arrêt européen, il a été créé pour que des échanges se fassent au sein de l'Europe sans qu'il y ait de contrôle judiciaire pour changer le mode de fonctionnement de l'extradition qui était long et compliqué. Aujourd'hui, on voudrait que ce soit une formalité comme un train, un camion qui traverse une frontière, pof, on vous demande de nous envoyer un tel, on le renvoie sans qu'il y ait un examen par les juges. Donc la justice n'est plus là, les juges n'ont plus leur mot à dire. On veut diminuer le rôle des juges. Or, il faut que dans l'affaire Vincenzo Vecchi, la Cour de cassation prenne ses responsabilités, que les juges se rendent compte que demain, on va leur demander de renvoyer une Polonaise dans son pays parce qu'elle aura avorté. Demain, on va leur demander de renvoyer un journaliste en Hongrie parce qu'il aura écrit quelque chose à l'encontre du gouvernement. On ne peut pas accepter ces dérives. Il faut que la justice française se ressaisisse. Il faut que les juges reprennent leur pouvoir et ne suivent pas une injonction de la Cour de justice de l'Union européenne.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est face à une situation qui est délirante, qui est délirante depuis le début. On a fait vraiment, je pense que le comité de soutien a fait un gros travail pour démontrer effectivement tous ces mensonges. Les premiers mensonges auxquels on a été confrontés, c'est qu'il avait deux mandats d'arrêt européens sur le dos. Et en fait, on a découvert, mais on l'a découvert pas à pas, hein, en piochant dedans, en quelques semaines, on a découvert et démontré que l'un des mandats d'arrêt européens était un faux. Donc, même à ce niveau-là, même au niveau de la mise en œuvre des mandats d'arrêt européens, la justice italienne, relayée par la justice française, mentait. Et quand on a démontré que ce mandat d'arrêt européen n'avait pas lieu d'être, que c'était un faux, la justice italienne a eu le culot de répondre ceci. C'est dans les actes. Hein. Oui, on le sait, mais on l'a mis quand même pour que vous compreniez que c'était un individu qui avait déjà eu des activités de manifestation, etc.
La loi dévastation et pillage, c'est une loi qui, le 14 juillet 2022, rentre dans l'espace juridique européen. Et c'est une loi qui, de toute façon, va faire saliver pas mal de démocraties européennes qui, en ce moment, rêvent d'avoir des lois liberticides, d'origine parfois fasciste ou inspirées par des lois d'un passé douteux et qu'aujourd'hui on appelle démocratiques.
J'ai connu des gens comme par exemple Monique Guémane, qui d'ailleurs était devenue ensuite procureure de la République, puis procureure générale, des gens qui étaient capables de se lever à une audience et de dire « je réclame l'acquittement de cette personne parce que je ne suis pas d'accord avec les réquisitions écrites et les instructions que l'on me donne. J'estime que ma conscience de magistrat ne peut pas aller jusqu'à demander la déclaration de culpabilité d'un homme et je ne réclamerai pas une condamnation parce que si l'écriture est serve, la parole est libre. Voilà, le serment du magistrat, il prête serment toute sa carrière, pour toute sa vie, d'être impartial et indépendant. Mais que reste-t-il de cette indépendance de nos jours ?
Il faut absolument que les gens sache ce qui s'est passé, la façon dont les choses ont été menées, les manipulations, les excès, les délires judiciaires qui ont eu lieu, y compris le tout dernier, c'est-à-dire cet avis donné par la Cour de justice européenne, qui est complètement monstrueux. On est dans une situation où le droit aux libertés qui sont des libertés fondamentales, etc., est complètement en train d'être balayé. Je pense que ça a valeur d'exemple, ce qui se passe pour Vincent. Il faut qu'on fasse en sorte que ça fasse du bruit, que ça se sache, que les différents éléments de cette imposture, je veux dire, ce délire juridique, soient connus de tous, pour que la Cour de cassation sache qu'en tout cas, ce qu'elle va faire sera connu de tous et ne passera pas inaperçu. Il faut absolument faire en sorte que ça fasse du bruit et que ce soit quelque chose qui restera.
L'unification de l'espace juridique européen ne doit pas se faire au détriment des libertés. La coopération européenne n'est pas un argument juridique. La coopération n'est pas une valeur en soi. Il n'est d'unité durable qu'autour de principes que l'on peut respecter. Les faits reprochés à Vincenzo Vecchi sont mineurs, mal fondés et datent de plus de 20 ans. La procédure du mandat d'arrêt européen intenté contre lui a désormais plus de 3 ans. Il faut que Vincenzo Vecchi puisse enfin reprendre une existence sereine, normale. Il faut que la Cour de justice et la Cour de cassation refusent l'application d'une loi fasciste. Il faut que Vincenzo Vecchi reste libre.
C'était une émission du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Une pétition circule actuellement pour la défense de Vincenzo et des droits fondamentaux. Vous la trouverez sur le site www.comité-soutien-vincenzo.org et sur Facebook @Vincenzo. Soyons nombreux pour soutenir Vincenzo le 11 octobre partout en France. Les lieux de rendez-vous seront communiqués ultérieurement. Accompagnement musical, Macha Garibian.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.